Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les FARDC et l'armée ougandaise d'accord pour intensifier la traque des ADF dans le territoire d'Irumu en Ituri. Ceci intervient après le meurtre par ce groupe armé de 37 écoliers à Bouera en Ouganda, zone frontalière à la RDC. Sud Kivu, après le drame de mai dernier à Calais, les travaux se poursuivent entre Bouchouchou et Nyamukubi. Cependant, bien qu'accessibles aux motos, ces travaux sont ralentis par des corps sans vie que l'on continue de retrouver dans les décombres, rapporte l'administrateur de Calais. Et puis, toutes les stratégies prises par le gouvernement central pour rétablir la paix en Ituri et dans d'autres provinces de l'Est de la RDC ont démontré leurs limites. C'est ce qu'a dit Matata Ponyo hier devant la presse à Bunia, le président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement et l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les forces conjointes FARDC armée ougandaise se sont engagées à intensifier les opérations de traque des rebelles des ADF dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 dans le territoire d'Irumu. C'est après le meurtre par ce groupe armé il y a 5 jours de 37 écoliers du lycée Mpondwe dans la région de Bouera en Ouganda. Cette décision prise de commun accord avec les autorités congolaises est contenue dans un communiqué de presse du président ougandais Yoweri Museveni publié le 18 juin dernier. Martial Kiza résume le contenu de cette correspondance.
Dans ce document de 3 pages, le président ougandais revient sur les succès, selon lui, de l'opération Shujaa qui se déroule conjointement entre son armée et le FARDC dans les territoires d'Irumu en Ituri et de Beni dans le Nord Kivu. Yoweri Museveni cite par exemple l'élimination de quelques leaders rebelles des ADF et le démantèlement de plusieurs bastions dans la forêt des Zunguluka et des Mwalika. Il ajoute qu'avant l'opération Shujaa, toutes les zones ouest et sud de la montagne de Rwenzori, côté congolais, était plus ou moins contrôlé par les ADF où ils exploitaient des minéraux et cultivaient des cacao. Le président Yoweri Museveni déplore les massacres des 37 écoliers du lycée Pondoué dans les districts de Kasese par des ADF à provenance de la forêt frontalière entre la RDC avec son pays. Pour faire face à cette menace commune, il affirme que le gouvernement congolais a autorisé à l'armée ougandaise à élargir sa zone d'action à l'ouest de la route nationale numéro 4. Le chef de l'État ougandais déplore le manque de vigilance et certaines faillances sécuritaires en RDC et en Ouganda après les tueries et par des ADF des élèves à Bouira, village frontalière avec la RDC. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le chef d'état-major général des FARDC a rappelé à l'ordre les militaires en mettant l'accent notamment sur la discipline qui doit caractériser tout soldat. C'était au cours de la parade organisée le week-end dernier au camp colonel Kokolo. Ici à Kinshasa, Jean Gandou revient sur les grandes lignes de cette causerie morale du lieutenant général Christian Tshiwewe.
Le lieutenant général Christian Tshiwewe a commencé par rappeler la devise de l'armée qui est de ne jamais trahir le pays. C'était avant de revenir sur les missions de l'armée qui sont la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des civils. Il a aussi fustigé tout ce qui complote avec l'ennemi en lui fournissant tous les renseignements. Cela est d'après lui contraire à la loyauté qui doit caractériser les militaires. Pour le lieutenant général Christian Tshiwewe, il y a des traîtres au sein de l'armée et cela à tous les niveaux. Par ailleurs, il a rappelé que l'armée est apolitique. Par la même occasion, il a mis en garde les politiciens qui amènent les militaires à se départir de cette exigence. Le chef d'état-major général des FARDC a aussi appelé les militaires à la discipline. C'est ainsi qu'il a déploré et condamné ce qu'il a qualifié d'utilisation abusive des militaires. Pour lui, la loi dispose que seul le président de la République, en tant que commandant suprême des forces armées et de la police, doit être sécurisé par les militaires. En dehors de lui, il y a le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Les autres doivent recourir aux policiers. En outre, il a insisté pour que les militaires quittent les sites miniers. Il a promis d'envoyer dans tous les prochains jours une mission de contrôle à cette fin. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, une importante quantité d'aiguilles a été découverte le week-end dernier dans la commune Katuba à Lubumbashi. D'après le ministre provincial de l'Intérieur, l'issue de l'enquête qui est menée par les services habilités permettra d'en savoir plus sur cette affaire qui défraie la chronique dans la ville. En attendant, il demande à la population de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les hors-la-loi qui vivent dans la communauté. On écoute à ce sujet Eric Mutandala, ministre provincial de l'Intérieur dans le Haut-Katanga, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Moi, je pense que cela est lié au travail qui est en train d'abattre notre armée, notre police et nos services de sécurité, entre autres la communauté des renseignements. Pour dire, avec le bouclage mené, il n'y a pas longtemps qu'on a retrouvé une quantité de machettes. Qu'est-ce qui ne dit pas que cela est lié au bouclage et que les personnes mal intentionnées ont anticipé et ont su qu'il y a des bouclages à répétition dans différents coins et zones criminogènes que nous avons ciblés. Voilà qu'aujourd'hui, ils commencent d'eux-mêmes à se débarrasser des armes, les douilles, les machettes. Pour ce qui concerne les sacs de douille ramassés, tout a commencé avec un motard qui aurait aperçu un véhicule jeté ces deux sacs. Le motard a couru vers la police pour alerter, croyant que c'était les sacs contenant un corps sans vie. Quand la police est arrivée, ils ont découvert que c'était des douilles, des balles, je crois, de AK-47. Et pour l'instant, les services compétents sont en train de mener des enquêtes et l'issue déterminera les responsabilités. Nous appelons la population à être vigilante et à dénoncer tous les hors-la-loi. L'histoire d'insécurité, c'est une histoire de tous.
Justice. La Haute Cour militaire renvoie à vendredi prochain l'affaire du député Edouard Mwanga Chouchou pour raison de santé. Principal prévenu dans le dossier qui l'oppose au ministère public, l'ancien patron de la société minière de Bisunzu n'a pas pu se présenter à l'audience publique hier mardi à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. D'après les juges, il a été admis aux soins au dispensaire de la prison, mais la Cour a fait comparaître les renseignants puis s'est déclaré suffisamment éclairé par leur déposition. Jeff Ngoy Mulunda, reporter.
L'audience du 20 juin devait être consacrée à l'examen des cartes USB trouvées dans le coffre-fort du prévenu. Elle devait aussi porter sur le rapport de test COVID-19 de l'UNRB et déclencher l'instruction de la détention d'armes et munitions de guerre chez le prévenu. Mais la santé de ce dernier, qui dit souffrir des palpitations et autres pathologies, n'a pas permis au juge d'instruire. Précédemment, le ministère public a requis que soit poursuivi le chef de la police du Nord Kivu, qui l'accuse de négligence dans l'accomplissement de leur mission de mensonge. Selon l'auditeur militaire, les policiers de l'escadron police des mines et hydrocarbures basé à Bibatama sur le site minier de la SMB étaient des policiers irréguliers et constituaient une réserve du M23 en complicité avec les autres officier supérieur de la police. Accusation rejetée par les renseignants. Mais la Cour a rappelé aux parties au procès le principe selon lequel un renseignant ne peut être transformé en accusé que si ces renseignements induisent sciemment la Cour en erreur. Et elle n'a pas jugé que tel fut le cas. À la prochaine audience, si la santé du prévenu s'améliorait, l'on pourrait donc découvrir ce que cachent ces cartes USB.
Merci de nous recevoir à Calais dans le Sud Kivu. Poursuite des travaux pour la réouverture de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, entre Bushushu et Nyamukubi. Et bien qu'accessible aux motos, ce tronçon est encore impraticable aux voitures. Une situation qui fait suite aux inondations et éboulements meurtriers du mois de mai dernier dans les villages de Bushushu et Nyamukubi. Plus de détails avec Cynthia Bachizi.
D'après l'administrateur de territoire, les travaux sont surtout ralentis par des corps sans vie que l'on continue de retrouver dans les décombres. Thomas Bakinga.
Les motos déjà quittent directement Nyamukubi, ils traversent là très facilement. Le seul souci qu'il y a, c'est parce qu'il y a encore des corps dans le décombre par le moment, le temps que on essaie de nettoyer les corps qu'on trouve, le temps de l'inhumer, s'il y en a eu deux, s'il y en a eu trois, ça essaie de bloquer un peu le travaux. Ce qui veut dire que on ne va pas aussi aller avec une vitesse pour autant qu'il y a de corps qu'on a d'abord enlevés et les enterrés. Voilà, ça peut créer des interruptions. Mais sinon, l'ingénieur qui est là, il nous a promis qu'il va y aller progressivement et pour aussi dans un temps record. L'avancement rapide de ces travaux.
Toujours en rapport avec ces catastrophes, les sinistrés devraient être délocalisés vers l'aérodrome de Loako. C'est ce site qui a été choisi à cette fin par le gouvernement provincial. Mais la situation est un peu plus complexe car certains sinistrés refusent de s'y installer. L'aérodrome de Loako jugé éloigné de leur centre d'intérêt. Cette délocalisation est provisoire, le temps de trouver un compromis avec des propriétaires terriens pour une solution définitive a tenu à rassurer Tipson Idumbo, porte-parole du gouvernement provincial. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Restons au Sud Kivu. Des femmes potentielles candidates venues de Fizi, Uvira, Kabare et Mwenga sont formées depuis mardi sur l'école des campagnes électorales. Elles bénéficient de l'accompagnement du caucus des des femmes pour la paix, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Promouvoir la participation politique des femmes et la mobilisation communautaire en faveur de l'égalité des sexes au Sud Kivu. Ce projet est mis en œuvre dans les 4 territoires précités dans le but de contribuer à l'amélioration du taux de participation politique des femmes en RDC. Solange Luachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes, nous en parle au micro de Rachel Kiesé.
Le caucus des femmes a vu qu'il était important et au vu de la demande de ces femmes d'organiser cette session spécifique par rapport à l'école des campagnes. Parce que si on veut être élu, la campagne électorale c'est parmi les étapes les plus pertinentes. Et donc ici, il sera question d'amener les femmes à s'émirer. Parce que nous sommes à la veille des élections. À s'émirer et voir dans leurs ambitions politiques, où est-ce qu'elles en sont par rapport à l'environnement politique, l'environnement de concurrence et d'adversaires politiques, où elles ont un dénominateur commun, l'électeur, l'électrice. Alors, comment ces femmes analysent leurs forces et faiblesses? Qu'est-ce qu'elles ont déjà fait? Quelles sont les garanties? Et parce que les élections ne peuvent pas être gagnées dans le contexte de la RDC, sans argent. Et donc, il faut vraiment une planification.
Par ailleurs, dans la province du Kwilu, la société civile du territoire de Gungu parle de la vitrine électorale. C'est le résultat de la consultation citoyenne organisée à travers la campagne d'éducation électorale lancée depuis mai dernier et clôturée en ce mois de juin. Selon cette structure, cette campagne a connu la participation d'au moins 1051 personnes qui sont des membres de toutes les composantes sociales de ce territoire. À l'issue de la dite campagne, au moins 15 critères ont été retenus pour permettre à la population de Gungu d'identifier les mauvais candidats lors des prochaines élections. Joachim Kusamba, président de la société civile de Gungu, explique au téléphone de Irène Boma.
Le nombre de candidats, c'est ça qui a motivé la société civile de mettre en place ce programme d'éducation électorale pour que la population puisse s'exprimer, nous donner les éléments afin de mettre les critères pour aider la population à faire les bons choix. C'est ça qui a motivé la société civile donc de mettre en place donc, la campagne d'éducation électorale. Et à la fin de compte, ça aboutit à ce document qu'on appelle vitrine électorale. Nous saurons déjà que ça c'est un mauvais candidat, ça c'est un bon candidat. Les mauvais candidats, la population ne pourra pas faire les alliages de voix. Ces voix-là pourront être orientées vers des bons candidats qui pourront représenter valablement la population pendant la législature prochaine. Parmi les critères, la population a décidé que les candidats sans résidence dans les territoires de Gungu, ce n'est pas un bon candidat. Quelqu'un qui vient solliciter le mandat, mais il est à l'hôtel, alors la population a dit que non, ce n'est pas possible. Candidat sans compétence, sans expression. Au Parlement, on doit parler, on doit défendre les intérêts de sa population. Alors, candidat sans expression, ce n'est pas un bon candidat. Candidat sans action sociale à impact visible dans les territoires de Gungu. Candidat qui tire des ficelles dans le conflit des pouvoirs coutumiers. Les critères, au total, il y en a 15.
Actualité internationale. Au Soudan, le nombre des personnes ayant fui les combats dépasse les 500 000 et celui des déplacés dans le pays a atteint 2 millions, a révélé mardi le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, ACR. De plus, 25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire. Philippe Ograndi a appelé à un élan de générosité envers ce pays à partir de Nairobi au Kenya à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. En Libye, l'organe de lutte contre l'immigration clandestine a renvoyé mardi au Nigeria 165 migrants nigérians, dont des femmes et des enfants, ce en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et c'est dans le cadre officiellement d'un retour volontaire selon un responsable.
L'invité.
Toutes les stratégies prises par le gouvernement central pour rétablir la paix en Ituri et dans toutes les autres provinces de l'Est de la RDC ont démontré leurs limites. C'est ce qu'affirme le président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, Matata Ponyo. S'exprimant hier lors d'un point de presse au terme de sa visite de 2 jours à Bunia, il a exhorté les électeurs à choisir lors de la présidentielle de décembre prochain des dirigeants politiques capables de restaurer la paix et la stabilité macroéconomique. Matata Ponyo s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur le sénateur Augustin Matata Ponyo, bonjour. Quel est l'objet de votre visite à Bunia?
D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que mon séjour était fructueux. J'ai été très bien reçu par la population de Bunia. La plupart des représentations avec qui nous avons échangé estiment que la province de l'Ituri est abandonnée. est qu'il n'y a pas une attention suffisante du gouvernement central sur le problème de l'Ituri. La population itourienne stigmatise l'affairisme du gouvernement provincial de l'Ituri. Ça, c'est le point de vue de la population itourienne qui stigmatise les manques d'efficacité et l'affairisme du gouvernement.
Vous avez été bloqué à Kinshasa samedi et subitement vous vous êtes retrouvé à Bunia. Qu'est-ce qui s'est passé?
Nous n'avons pas été autorisés à aller au camp de déplacés. Alors que nous avons formulé officiellement la requête, nous n'avons pas voulu dire qu'on dise de nous n'avoir pas respecté les règles administratives, les règles politiques. Vous savez déjà, en tant qu'un leader de l'opposition, pour arriver ici en Ituri, j'ai été interdit à l'aéroport d'Ndjili. On m'a interdit, on m'a ravi la carte d'embarquement parce que opposant, parce que candidat président. C'est après avoir dénoncé que finalement, face à la pression populaire, qu'ils ont été obligés de me laisser venir. Mais notre souci, c'était de compatir avec nos frères et sœurs affectés par les problèmes de la guerre.
La province de l'Ituri est sous état de siège et par conséquent, les manifestations politiques y sont interdites. Pourquoi ces choix portés en Ituri en ce moment à l'est de la RDC?
Nous avons dénoncé plusieurs fois l'échec de l'état de siège. L'état de siège a échoué. Nous l'avons dénoncé. L'état de siège avait pour mission de sécuriser davantage la population de l'Ituri. Mais il a été constaté que l'insécurité s'est accrue, les tueries, le nombre de morts est plus élevé pendant la période d'état de siège qu'avant la période où il n'y avait pas d'état de siège. Donc,
vous avez été Premier ministre, la guerre affecte l'est de la RDC. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire dans cette partie du pays et quelle solution pour la sortie de cette crise?
Pendant notre mandat, il y a eu une diminution sensible des groupes armés. Nous ne pouvons pas dire que nous avons exterminé tous les groupes armés, mais je dois vous dire qu'au cours de notre mandat, ces groupes armés ont sensiblement diminué. Est-ce que le fait que nous ne les avons pas tous exterminés, c'est ça la responsabilité qui justifie la continuité de l'insécurité aujourd'hui? Ça, je pense que c'est à vous de comprendre que là où nous nous avons laissé, c'est de là où les gouvernements suivants devaient commencer pour non pas stabiliser le nombre de groupes armés, mais pour les diminuer. Nous l'avons dit, et la solution pour résoudre la question de l'insécurité, la question des groupes armés, passe nécessairement par la consolidation de l'armée nationale. La réforme et la dynamisation, la professionnalisation de l'armée nationale, voilà ce qui garantit la paix et la sécurité et l'absence des groupes armés.
Vous avez rencontré les auteurs politiques, les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, religieux, les membres de la FEC. Quel est le but de votre démarche?
Quand j'ai quitté la primature, j'ai conseillé 3 présidents de la République. Mais je ne me suis pas présenté pour leur demander de me prendre comme conseiller. J'étais en RDC, ils m'ont appelé. Monsieur Matata, nous voulons que vous puissiez venir nous aider. Et je suis allé et je les ai aidés. Comment voulez-vous que je puisse aller forcer le gouvernement? Vous devez me prendre pour que je vous aide. Non.
Augustin Matata Mpogno, je vous remercie.
Le président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement répondait aux questions de Ezekiel Mouzalia. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotati Vuita. Supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de votre attention.